On va aborder un sujet qui a été évoqué, c'est le diagnostic précoce avec le docteur Caroline Trompette, neurologue, chef de clinique et assistant des hôpitaux dans le service du professeur Secaldi. Et donc les enjeux du diagnostic précoce qui ont déjà été largement effleurés.
Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre invitation. Juste des liens d'intérêt, mais je n'en ai pour l'instant aucun. Donc la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées, elles ont des points communs déjà. Elles partagent en commun le fait d'avoir des accumulations anormales de protéines dans le cerveau, dont vous avez déjà entendu parler juste précédemment avec le professeur Dubois. Donc ces accumulations anormales, elles vont entraîner une perturbation du fonctionnement des neurones. Et en fonction de la localisation de ces neurones qui sont perturbés, ces neurones qui participent par exemple à la mémoire, ça va donner des problèmes de mémoire. Ces neurones qui participent au langage, ça va donner des problèmes de langage, etc. Donc il va y avoir une apparition lente et progressive de troubles cognitifs ou bien comportementaux ou les deux. Donc on voit bien que dans ces maladies neuroévolutives, il y a cette phase dont on a parlé qui est asymptomatique. On vous voyait ici à la ligne rouge qui représente l'accumulation progressive des protéines qui précède l'altération fonctionnelle puisqu'il y a une compensation cérébrale et qui précède elle-même donc l'apparition des symptômes. Quand les symptômes commencent à apparaître, on parle des troubles cognitifs mineurs ou bien légers. Et quand là, il y a une perturbation en termes d'autonomie, besoin d'aide au quotidien, eh bien, on dit qu'on a des troubles cognitifs majeurs, anciennement appelés démence. Donc, quel est l'intérêt de faire ce diagnostic précoce, mais surtout, de quand parlons-nous? Quand le faire? Donc, cette période silencieuse, elle est vraiment très longue. Il y a même certaines études, là on parlait tout à l'heure de 15 ans, mais parfois, donc ça a été fait par exemple chez les patients qui sont porteurs d'une mutation génétique, donc quand on en est porteur, on est certain de développer un jour la maladie, même si ces formes sont très très rares. On a observé donc les différents marqueurs chez ces personnes et on voit que le premier marqueur qui apparaît, cette accumulation de protéines A-bêta, c'est même jusqu'à 25 ans avant le début des symptômes. Donc, à nous de voir quand est-ce qu'on va pouvoir faire ce diagnostic précoce et dans quel intérêt. On a plusieurs déjà définitions de la maladie d'Alzheimer. En Europe, nous, on parle de maladie d'Alzheimer quand il y a des symptômes cognitifs qui sont liés à ces anomalies biologiques qui sont détectables. Aux États-Unis, ils parlent récemment. De plus en plus, ils disent que déjà, on est dans la maladie d'Alzheimer rien que quand on a des changements au niveau biologique, donc même avant l'apparition des symptômes. En France, on reste attaché au fait que, effectivement, comme Aloïs Alzheimer l'a décrit, il y a un lien direct entre les symptômes présentés chez le patient et les anomalies qu'on retrouve. Donc, Aloïs Alzheimer, effectivement, il a décrit deux types d'accumulation anormale, ce qu'on appelait les plaques séniles et les dégénérescences neurofibrillaires. On a pas mal progressé sur l'identification de ces protéines causales. Donc, en analysant le cerveau des personnes décédées, on voit qu'en fait, ces deux types de protéines, protéines amyloïdes bêta-42 et protéines tau, ces deux types-là, c'est ceux qui caractérisent la maladie d'Alzheimer quand on analyse les cerveaux. Sauf qu'évidemment, on ne va pas prendre un bout de cerveau pour faire un diagnostic. Donc, on va trouver d'autres moyens. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser un diagnostic positif, c'est-à-dire de la maladie, et il faut aussi écarter les autres diagnostics. Pour ça, on va s'appuyer sur plusieurs choses. Les symptômes, que nous on appelle cliniques, l'imagerie et des biomarqueurs. Et c'est grâce à tous ces arguments qu'on va pouvoir donner une réponse aux patients. Donc on a fait des progrès notamment pour identifier les signes cliniques. Donc il y a l'examen neurologique, la consultation avec un neurologue, parfois un gériatre, donc les consultations mémoire. On augmente la formation des médecins. Il y a des tests neuropsychologiques, orthophoniques. Donc il y a aussi beaucoup d'études en termes de diagnostic, de caractérisation des différents symptômes. Parce qu'effectivement, il y a les formes classiques de la maladie d'Alzheimer qui se présentent par des troubles de la mémoire. mais on a découvert qu'il y a aussi beaucoup d'autres formes possibles de présentation clinique. Ça, c'est les outils cliniques qui ont effectivement avancé avec le temps. Nous avons des outils d'imagerie, donc l'IRM cérébrale, donc c'est l'imagerie morpholomie. Je dis que ça nous donne la forme du cerveau. Donc effectivement, déjà, ça nous permet d'éliminer si c'est un AVC, s'il y a une tumeur cérébrale ou autre chose, et puis de voir est-ce qu'il y a certaines zones du cerveau qui diminuent en volume, signe d'une altération de certaines zones cérébrales. On peut s'aider aussi de ce qu'on appelle l'imagerie métabolique avec le PET scanner cérébral. Donc c'est du sucre qu'on injecte, et comme le cerveau consomme du sucre, eh bien on va voir quelles sont les zones du cerveau qui ne consomment pas assez de sucre. Ce sont les zones du cerveau qui ne fonctionnent pas suffisamment, et ça peut aussi nous renseigner sur les zones qui fonctionnent insuffisamment. Alors parfois on peut se faire aider d'autres marqueurs. Ce qu'on appelle donc les marqueurs, vous vous souvenez tout à l'heure, des deux types de protéines qui s'accumulent dans le cerveau, on va trouver des moyens, sans prélever du cerveau, de les détecter. Pour ça, on peut faire une ponction lombaire, donc on fait une anesthésie locale, et on va doser ces protéines. On peut faire ce qu'on appelle un TEP amyloïde, donc c'est un petit peu comme tout à l'heure, avec le sucre, sauf que là, c'est un traceur qui va marquer les plaques d'amyloïde. En France, ça commence à se développer, et il y a aussi le TEP donc pour la protéine tau, ça pour l'instant c'est pas encore en pratique clinique en France. Et le dernier biomarqueur qui arrive donc en tout cas aux États-Unis, c'est pas encore en pratique clinique en France, mais on en entendra sans doute parler plus tard, qui peut participer au diagnostic biologique, c'est un marqueur sanguin. On va doser la protéine tau dans le sang. Donc quels sont les arguments pour, les arguments contre de ce diagnostic précoce, voire très précoce? Eh bien ça, la réponse, elle est strictement personnelle. Mais c'est vrai que je pense qu'en tant que médecin, nous avons le devoir donc d'éclairer, d'informer les patients, que les associations, que comme vous faites aujourd'hui, ça permet d'informer aussi le public, de sensibiliser et puis de se faire une idée aussi. Donc effectivement, peut-être que ça me permet déjà, poser un diagnostic, de savoir que ce n'est pas parce que je ne fais pas attention, que je ne fais pas d'effort. Quelque part, ce n'est pas de ma faute, c'est une maladie. Voilà. Ça me permet peut-être de bénéficier de futurs traitements modificateurs de la maladie. Donc voilà, il y aura peut-être sans doute des recours pour les anti-amyloïdes, pour une prochaine autorisation de mise sur le marché. Et ça permet aussi de participer aux essais cliniques. Quand on a une certitude diagnostique, on va pouvoir donc bénéficier d'essais cliniques de futurs anti-amyloïdes, anti-taux, etc. Pour certains symptômes, effectivement, on va plutôt mettre tel médicament ou tel autre si on a plutôt telle pathologie ou telle autre. Donc là, il peut y avoir un intérêt aussi. Et voilà, il y a des personnes qui souhaitent aussi un petit peu anticiper leur projet, s'organiser. Et puis il y en a d'autres, c'est très personnel, qui préfèrent ne pas savoir, qui ont peur de la stigmatisation, parfois avoir une étiquette, voilà, que cela bouleverse en fait leur choix de vie. Dans tous les cas, je pense que qu'on soit favorable à une démarche, on va dire, proactive ou pas, dans tous les cas, c'est vraiment important de éviter le plus possible les survenus. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on estime qu'il y a jusqu'à 40% des cas de démence qui pourraient être évités. On en a un peu parlé tout à l'heure. L'activité physique, la stimulation cognitive et l'engagement social, c'est vraiment trois choses qui sont vraiment possibles à mettre en œuvre, qui sont vraiment prégnantes en ce qu'on appellera, je vous montrerai tout à l'heure, la réserve cognitive aussi. La nutrition, le diabète, les lipides, donc ça, c'est toutes les choses qui vont faire une agression sur le cerveau, le tabac, l'alcool et les drogues notamment, le stress, la dépression, les troubles du sommeil, les troubles auditifs et de la vision, certains médicaments et les traumatismes crâniens. Et ça, en fait, l'intérêt, donc vous avez en haut la courbe que je vous ai remise de l'apparition des différents biomarqueurs au cours de la vie, en jaune, c'est le premier qui apparaît, en bleu, donc en jaune, c'est la protéine A-bêta, en bleu, c'est la protéine tau, en vert, c'est les symptômes cliniques. On voit que si on a des risques d'autres pathologies qui interviennent, donc dont on a parlé, hypertension, diabète, cholestérol, mais aussi de l'alcool, etc. Et bien le risque, c'est que ça avance l'apparition des symptômes. Et donc, la courbe verte, elle va être décalée, elle va arriver plus tôt. À l'inverse, quand on favorise les facteurs protecteurs, cette fameuse réserve cognitive, eh bien, ça va décaler l'apparition des symptômes vers un moment plus tardif. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir sur ces facteurs tout au long de la vie. Ça commence, on va dire, peut-être même dès in utero, mais dès la naissance, le niveau d'éducation dont on a parlé, mais aussi si on n'a pas forcément fait beaucoup d'études, on peut très bien s'être fait soi-même une carrière professionnelle très intéressante, très variée, très riche. On peut, à la retraite, avoir des activités sociales, des activités, on va à des conférences, on participe à des associations, on gère les associations, donc en fait, on peut gérer aussi ses petits-enfants. Enfin, voilà, il y a beaucoup de manières.
Le message qui est envoyé.
Beaucoup de manières de, en fait, entretenir sa réserve cognitive et puis, au cours de la vie, effectivement, de bien maintenir un niveau d'hygiène, en fait, en évitant la consommation d'alcool, de tabac, une alimentation vraiment riche en oméga 3, des activités physiques. Ça, c'est juste un petit focus, voilà, parce qu'on aime bien aussi voir au niveau alimentaire, c'est des petites choses qu'on peut faire, avec un effet bénéfique, qui est tout ce qui est consommation de poissons gras, d'huile végétale. En gros, c'est surtout le régime méditerranéen, pour simplifier. Et on voit aussi qu'il y a un effet sur certaines études. On a regardé donc chez des personnes qui n'avaient aucun signe de la maladie, mais qui avaient à l'imagerie TEP des plaques amyloïdes. On a fait des actions multi-interventionnelles et aussi au niveau nutritif avec des oméga-3, mais tout ce qui était aussi activité physique, cognitive, etc. Et on voit qu'effectivement, ça permet d'améliorer les symptômes. Donc, un message pour la prévention, surtout, il n'est jamais trop tard. À tout âge, on peut s'y mettre. Je vous remercie de votre attention.
Merci. Merci infiniment. Merci infiniment. Non, c'est bon, je l'ai resté. Merci infiniment pour cette présentation extrêmement claire. Place donc aux questions. La prévention, c'est extrêmement intéressant. J'aurais quand même... On parle beaucoup des évitables. C'est le même chiffre d'ailleurs pour le cancer. Hein. On dit 40% des cancers évitables pour l'Alzheimer, c'est 40% des maladies d'Alzheimer évitables. D'où viennent ces chiffres?
Alors,
comment voilà.
C'est vrai
qu'on entend beaucoup ça, mais on se dit mais comment ils les ont ces chiffres?
Alors il y a plein d'études épidémiologiques, on appelle ça. Donc
voilà.
C'est vraiment qu'on va suivre les patients dans la durée. On peut regarder aussi les personnes qui ont la maladie, on peut regarder a posteriori, donc qu'est-ce qu'elle était leur style de vie, mais on peut aussi, et c'est l'idéal, c'est le plus fiable, on va dire, de prendre des personnes qui ont tel style de vie et qui n'ont pas de symptômes, et puis de voir l'évolution au cours de la vie, l'apparition de symptômes, et aussi quel mode de vie ils avaient. Et on peut faire aussi des... analyses, c'est-à-dire qu'on va grouper les analyses qui sont faites dans des méta-analyses pour voir quelle est la dominante, parce qu'effectivement, d'une analyse à une autre, on n'a pas toujours les mêmes résultats. Voilà, donc ça, on va pouvoir avoir des moyennes aussi entre les différentes analyses retrouvées, différents résultats.
Et dans ces recherches que vous menez, par exemple, sur le cancer du poumon, on sait le tabac cancer du poumon, la relation est directe. Est-ce que dans la maladie d'Alzheimer, vous avez trouvé un facteur particulier qui, je dirais, constitue un risque majoré par rapport à tout ce que vous avez évoqué? Est-ce que, par exemple, la malnutrition, la sédentarité, est-ce qu'il y a un marqueur particulier de gravité?
Non, il n'y a pas de marqueur particulier. C'est
rien.
Vraiment des facteurs environnementaux, de
multiples.
Mode de vie multiples. Les seuls facteurs identifiés comme étant majeurs, c'est ceux qui sont porteurs d'une mutation. Et c'est vraiment des situations particulières.
D'accord.
Voilà. Alors après, il y a ce qu'on appelle un polymorphisme génétique, c'est-à-dire qu'on a tous certaines variations de gènes d'une protéine qu'on appelle l'APOE. Et donc là, on sait que pour certaines formes de ce gène-là, ceux qui sont porteurs, par exemple, de l'APOE4, eh bien, ils sont plus à risque. Mais ça ne veut pas dire que là, pendant leur vie, ils sont à 100% de risque de développer leur maladie. Après, s'ils vivent jusqu'à 150 ans, peut-être. Mais pour l'instant, voilà, c'est avec l'espérance de vie actuelle, on ne peut pas dire que si on est APOE4 sur 4, on est sûr à 100%. Voilà.
Très bien, merci. On partage le micro, bien sûr, avec la salle. Oui, bien sûr, madame. Le micro était tout prêt.
Bonjour.
Bonjour.
Un peu plus près, s'il vous plaît.
Voilà. Pardon. Il y avait marqué un moment pour les facteurs de risque, la vue et l'ouïe. Ça nous a interrogés, en fait.
En fait, ça participe à l'isolement social. Et puis aussi, ça donne des difficultés attentionnelles. Donc, en fait, ça majore les troubles cognitifs aussi. Ouais. Donc c'est vraiment, en fait, ces facteurs-là, souvent, ils sont liés vraiment plus ensemble.
On dit que c'est vrai, corriger les troubles de l'audition, c'est majeur à partir d'un certain âge, parce qu'effectivement, ça isole et ça précipite. Ouais. Alors, j'avais une question presque éthique. J'ai pas bien compris votre position, pour être très honnête. Comme disait monsieur, à juste titre, vous décrivez une maladie qui peut évoluer sur 20-25 ans. Aujourd'hui, il faut être clair, pas de thérapeutique, bien sûr, il y a des espoirs, mais pas de thérapeutique. Ça pose quand même la question du diagnostic. On peut comprendre la question de monsieur, pourquoi savoir si on me dit derrière qu'il n'y a pas de médicament aujourd'hui et que finalement ma maladie peut évoluer sur 15 ans à bas bruit comme la personne proche du professeur Dubois.
Oui.
Est-ce qu'il fallait la traiter, cette personne ?
Alors,
est-ce qu'il fallait la diagnostiquer, pardon ?
Alors, je pense que si on est à fort risque, parce que on a, par exemple, on est porteur d'une mutation génétique, d'accord ?
Ça, c'est les cas très rares. Hein,
voilà, très bien. Là, peut-être qu'il faudrait avoir une surveillance particulière. Tout dépend si on a des médicaments qui arrivent sur le marché et qui vont modifier la maladie. Dans ces cas-là, il y a un intérêt à faire un diagnostic plus précoce, d'accord ? Mais si on se dit que, de toute façon, quel que soit le diagnostic, on met en place des mesures pour éviter les troubles cognitifs, finalement, toutes les mesures dont je viens de parler, ben, dans ces cas-là, effectivement, on peut se dire que ça ne va pas changer de faire un diagnostic ou pas, parce qu'on va déjà, en fait, mettre en place beaucoup de choses. La seule chose qui peut être intéressante, je pense, c'est quand il y a des difficultés... certains symptômes qui apparaissent, simplement des difficultés cognitives qui apparaissent dans la vie quotidienne, pouvoir bénéficier d'une rééducation, mettre en place des stratégies de compensation, donc naturellement on le fait, mais par exemple avec une rééducation orthophonique, avec une rééducation neuropsychologique, ça peut aider aussi à maintenir ses fonctions, mais de manière ciblée. Parce que quand on maintient des activités sociales, effectivement, on fait travailler son langage, c'est pour ça qu'on fait travailler sa mémoire, on évoque ensemble des souvenirs, on planifie des choses. Donc ça, c'est beaucoup de fonctions cognitives impliquées, sans même, on va dire, faire d'efforts. Et on va aussi, avec une rééducation plus ciblée avec un professionnel, en fait, mettre en place vraiment des stratégies de manière un peu plus consciente.
Alors, je vais continuer quand même. J'entends. Je vais continuer à me faire l'avocat du diable. On sait que le diagnostic, ça peut induire une dépression, et c'est souvent le cas, malheureusement, c'est un diagnostic qui est difficile à entendre, surtout dans les stades précoces. Entraîner chez quelqu'un qui se maintient avec sa résilience une dépression par un diagnostic qui est quand même très dur à entendre, est-ce que c'est pas un risque ? J'insiste.
Alors, je suis entièrement d'accord, et parce que ça va tout dépendre du patient. C'est sa volonté.
Il faut bien le connaître.
Oui, c'est pour ça que ce n'est pas en une consultation, première fois qu'on voit le patient, qu'on va forcément faire un diagnostic. Hein. Personnellement, voilà, déjà parce que moi, il faut que je vérifie que c'est bien les symptômes, qu'il y a bien les critères pour poser ce diagnostic, donc je vais revoir plusieurs fois le patient. Et puis, ça me permet de savoir où il en est, lui, dans son désir d'avancer ou pas dans un diagnostic. Parce que pour l'instant, rien ne presse pour mettre en place un traitement, on va dire, pour modifier la maladie, puisqu'ils ne sont pas encore arrivés, d'accord ? Mais, je pense que, par exemple, il y avait un patient qui sait qu'il est un peu à risque, parce qu'il présente, que j'ai vu il n'y a pas longtemps, il a des difficultés cognitives, mais il a une vie très super active. Il a mis en place plein de super compensations déjà maintenant. Et j'ai senti, peut-être, après c'est aussi le côté humain du métier et de la relation qui est importante, je pense, entre le médecin et le patient, qu'il n'avait pas forcément envie d'aller plus loin, pas forcément envie de bouleverser sa vie, où il voyage tout le temps, etc. Et mettre un mot sur ses symptômes, il n'était pas prêt. C'était, de toute façon, il n'aurait pas voulu participer à un essai thérapeutique avec des perfusions, une surveillance IRM, parce qu'il n'aurait pas pu voyager comme il voulait. Donc, on en est resté là. Voilà, et je continue à le suivre.
Très bien, c'est une très belle illustration, mais vous n'êtes pas partout. Et le premier interlocuteur, c'est souvent le médecin traitant. Est-ce qu'aujourd'hui, il est suffisamment formé à tout ce que vous venez d'évoquer, tous les deux? Est-ce que ça peut être un... Il y a madame qui lève les yeux au ciel, parce que malheureusement, il manque de plus en plus, ils ont de moins en moins de temps à donner. Est-ce que ce n'est pas une problématique aujourd'hui?
Alors, le médecin traitant, on ne va pas forcément lui demander de faire le diagnostic. Hein. Et souvent, c'est lui qui va adresser vers le neurologue ou le gériatre ou un centre mémoire. C'est plus de détecter les symptômes, soit par le patient lui-même, la famille. Donc, et après, on va recevoir le patient et nous faire tout ce cheminement avec lui.
Merci beaucoup. D'autres questions ? Oui, bien sûr, madame et monsieur, pas. Excusez-moi. Oh, ça vous heurte qu'on donne le micro d'abord à monsieur. Je suis désolée, il était plus près. Merci.
Oui, on n'a pas évoqué les aggravations possibles liées à la pollution. Autrement dit, est-ce qu'il y a des études qui ont montré qu'en milieu rural, on développerait peut-être moins la maladie qu'en milieu urbain ? Alors, je sais que tout à l'heure, vous avez évoqué les pesticides, ou du moins les études liées aux pesticides. Ce n'est pas forcément un milieu rural que l'air est plus sain, forcément. Mais est-ce qu'il y a une corrélation qui peut être établie?
Merci pour cette question. Démographie,
oui, ça fait partie des multiples facteurs environnementaux. Mais les études, elles varient beaucoup en termes de résultats concernant. Elles sont très difficiles à faire, puisqu'en fait, il y a tellement de facteurs à prendre en compte. De savoir si les différences qu'on a observées entre les gens qui vivent à la campagne et à la ville, c'est dû uniquement à la pollution ou c'est lié à leur mode de vie, c'est lié à leur
moins sédentaire,
coutume alimentaire, en termes de moins sédentaire peut-être à la campagne que en ville. Donc il y a tellement de facteurs qu'on ne peut pas répondre de manière franche en disant ça participe pour tant de pourcents au risque. Mais on continue ces études-là, donc on va sans doute les affiner et on va peut-être sans doute arriver à ce que professeur Dubois expliquait tout à l'heure, en fonction de notre mode de vie, de nos facteurs génétiques éventuels, de nos prédispositions génétiques éventuelles, avoir un peu un risque. Sachant que ce risque, c'est toujours à l'instant T. Il peut évoluer, bien sûr, en fonction de mon mode de vie, etc.
Merci, madame.
Oui, bonjour. Sur la prévalence des femmes, est-ce que c'est que lié à la longévité supérieure des femmes par rapport aux hommes ou est-ce que c'est lié à d'autres facteurs?
Bonne question. C'est pas forcément lié que à la longévité, mais après, on sait que la durée de chaque phase de la maladie, vous avez vu tout à l'heure, elle va aussi varier entre les hommes et les femmes. Donc, c'est difficile de répondre. Parce que
pourtant, on a plus de relations sociales et on a plus, globalement, que les hommes. On a quand même beaucoup de facteurs plutôt favorables aux femmes, non? Mais moins d'éducation, peut-être, dans les plus anciennes, c'est ça? Ah, professeur Dubois,
Il y avait ça aussi dans certaines études, effectivement. L'éducation des femmes qui a tendance à devenir un petit peu comme celle des hommes, ça modifie en fait les études au fur et à mesure, donc c'est sûr.
Oui, monsieur. Attendez. Je vous en passe.
Merci.
Hop. Ah bon, attendez, je vais descendre.
Excusez-moi. Oui, vous nous avez parlé souvent de nombreuses études. La question est la suivante. Ce sont des études franco-françaises ou est-ce que ce sont des études... au fond, ma question, c'est quelle est la collaboration entre les chercheurs sur le plan international? Puisque vous parlez de médicaments qui sont utilisés en Chine, au Japon, aux États-Unis, est-ce qu'on a du recul et est-ce que toutes ces études sont prises en compte dans vos propos?
Bien sûr. Alors, il y a les deux. Il y a des études qui sont franco-françaises et il y a des études qui sont aussi internationales. Donc, par exemple, pour ce qu'on parle, on parlait des essais cliniques, par exemple, pour les anti-amyloïdes. Donc, en fait, les industries pharmaceutiques qui ont mis en place ces essais cliniques, ils les ont mis en place dans différents pays. Et ça permet aussi de faire des essais dans différents pays pour voir, eh ben, du coup, sur ce type de population-là, avec leur mode de vie, leurs caractéristiques génétiques, etc., est-ce que aussi il y a un intérêt chez ces patients, d'accord, chez ces personnes. Donc, ça permet, nous aussi, après, en tant que médecin, en se disant, bon, ben voilà, il y a aussi des patients de tel pays qui a participé. Donc, on peut se dire, ou en tout cas, les études, elles ont été faites sur telle caractéristique de patients. C'est possible que, si ça a montré un effet bénéfique, mes patients qui ont les mêmes caractéristiques, dans ce cas-là, j'aurais tendance à leur proposer. En revanche, il y a peu d'études, par exemple, qui sont faites chez les patients d'origine africaine. Et donc, dans ces cas-là, la difficulté, c'est bah, est-ce qu'on va leur proposer ces traitements-là, puisque les études n'ont pas été faites chez ces patients.
Merci. Peut-être juste une question concrète. Le dépistage dans le sang, ça ouvrira vraiment, bien sûr, la voie du dépistage de masse. Je crois qu'il est déjà proposé outre-Atlantique. Donc, quand c'est proposé outre-Atlantique, on peut dire que c'est déjà accessible. Est-ce que vous le craignez, ça ? Est-ce qu'il va falloir faire une campagne importante pour alerter les gens sur les risques liés Professeur Dubois, vous pouvez intervenir hein, si vous voulez réagir à cette question. Non, mais vous pouvez tous les deux, il n'y a pas de souci.
Alors, personnellement, je pense qu'effectivement, c'est risqué de juste comme ça, parce qu'on peut avoir des difficultés cognitives qui ne sont pas liées à la maladie d'Alzheimer, qui sont liées à autre chose ou qui sont juste liées parce que je suis très anxieuse, parce que j'ai une dépression, parce que je suis en stress, je suis surchargée au travail. Donc, et si je fais ce test-là qui revient anormal, est-ce que mes symptômes sont liés à une maladie d'Alzheimer ou c'est juste lié à des modifications de protéines qui peut-être vont m'engendrer des symptômes cognitifs d'une maladie d'Alzheimer, mais peut-être dans 20 ans. C'est ça la difficulté. Donc
prudence, parce que je pense qu'ils sont déjà accessibles hein, par Internet. Voilà. Donc,
pour
prudence.
Que ce soit compris, que c'est, ça, pour moi, ça relève une protéinopathie et pas une maladie d'Alzheimer. Pour moi, c'est ça. Voilà.
Il y a la nuance. Professeur Dubois, peut-être compléter parce que vous avez abordé ça.
Non, mais effectivement, et on est très, très soucieux de ce problème et on ne veut absolument pas que cette pratique se généralise. Ça doit rester dans des centres experts. En aucun cas, ça doit passer en médecine de ville. Ça, il faut être extrêmement prudent avec ça. Il ne faut pas faire cette recherche, il ne faut pas faire cette enquête parce qu'on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi proposer. On ne sait pas ce que ça veut dire d'avoir une protéine taux élevée. On ne sait pas. Donc, il n'est pas question qu'on se lance là-dedans tant qu'on n'a pas pénétré la signification et quand on n'a pas de traitement à proposer.
Ouais, on est beaucoup plus prudent que les outre-Atlantiques et les Anglais, etc.
Alors c'est la raison pour laquelle nous venons de publier la semaine dernière, vous avez peut-être suivi, je ne sais pas si vous l'avez vu, Mme Tempête, on a publié un article dans le JAMA Neurology pour justement s'élever contre l'attitude américaine. Et il y a 47 co-auteurs de 27 pays différents qui participent à ce travail collaboratif dans lequel on dit que nous sommes contre la réalisation de cet examen en pratique clinique.
Il va falloir beaucoup communiquer. Merci beaucoup. Écoutez, on vous applaudit parce que c'était encore extrêmement...